Salut, excuse-moi de te déranger deux secondes. Pour Couleur 3, le 11 septembre, on en parle cette semaine. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de faux dans ces histoires d'attentats, quoi?
Aucune idée.
Tu t'es jamais posé la question?
Si, je me suis posé la question, mais... Ça dépasse mes compétences, en fait. Ça dépasse les compétences de plus de gens qu'ils veulent bien croire.
Mais ça excite quand même les esprits, hein. Ça échauffe les esprits quand on commence à en parler. On se retrouve chacun sa petite théorie, sa petite explication.
Ouais. Ça, c'est plutôt des gens qui savent pas de quoi ils parlent, en fait.
C'est quand même une hypothèse personnelle, non?
Ouais, je pense que c'est à peu près ce que ça paraît le plus probable, ce qu'ils nous ont dit, parce que toutes les hypothèses où il y a des explosions qui nous expliquent que ça s'effondre pour différentes raisons, des gens, ils sont ni experts en explosifs, ni experts en maison, ils sont tout juste comptables, donc...
Donc toi, tu penses à quelle version? La vérité, c'est quoi?
Moi, je pense que c'est quand même quelqu'un, enfin, Osama Ben Laden qui a fanatisé les gens.
Pour... Il te l'a dit, Ben Laden?
Non, mais c'est... de mes lectures, c'est ce qui sort.
Pourquoi ça serait plus crédible que ce soit Ben Laden plutôt que ce soit des explosifs qu'on aurait placés sur les tours?
Je peux pas m'inventer expert en disant, oh là là, il y a des bombes. Je le dis, c'est vrai, donc c'est comme ça. Moi, je sais pas, ça me semble... De toute façon, il y a des choses... c'est tellement énorme que... De toute façon, il va y avoir des choses incroyables, c'est comme n'importe quel attentat, en fait. Il n'y aura jamais toutes les preuves qui vont s'assembler pour faire quelque chose de parfait, en fait.
Donc on ne saura jamais la vérité?
Au degré qu'on voudrait savoir la vérité, non, je pense pas, non.
Merci beaucoup.
C'était très sérieux.
Salut, bah oui, il faut. Que de la radio.
Quand j'ai ma mine des jours de grêle, quand la déprime me fait de l'œil, quand je m'abîme sur des poèmes, pour rien ne rime sur mes feuilles. Je les roule en joint d'oxygène, je me pique de cet amoureux, qui est la seule héroïne que j'aime, ma belle poudre scandaleuse. Et je smoke another air. Oui, je smoke another air. Et quand à longueur de journée, les médias de l'info me crient, l'Iroquois se refait plumer par les rois des poules en batterie. Je me soulève aux des fontaines, l'extasie d'une heure silencieuse, dans la quiétude sereine, ma pile taille intraveineuse, et je smoke another air. Me fait bien voir de son trottoir, que les défaitistes m'appellent en faisant tenter leurs dollars. Je me donne au vent dans la plaine, tatoue ma peau à l'encre bleue. Du soleil des pluviennes, je suis ce junkie contagieux. Quand je smoke another air. Oh, je smoke another air.
Je vous demande juste un instant, donc nous sommes en direct sur Couleur 3, mais vous n'êtes pas sur vos téléphones.
Non, je l'ai remarqué là qu'on est en direct, on m'a pété mon annonce là. C'est un attentat.
Alors, ne quittez pas, je pose le téléphone, on va réussir à vous passer à l'antenne et pendant ce temps-là, on va expliquer qui vous êtes à nos auditeurs. Surtout, ne quittez pas, d'accord? Vous restez avec nous?
Oui.
Donc tu peux expliquer qu'on a le parlementaire italien.
Moi, ouais, je voulais juste dire que c'était, hein, avait chanté.
Ah
et
oui,
tout,
vas-y, mais comment ça, bon, là,
c'est,
oui,
pas super,
oui,
important. Voilà, pouf. Oui. Donc Nicolas Michel, alias K, avec Smoke Another Air, de la fumée, de l'air, même de la poussière qui devrait voler en éclats ce matin, avec encore un nouveau témoin, Émilie, concernant notre semaine consacrée aux attentats du 11 septembre, qui est un parlementaire italien du nom de
Giulietto Chiesa. Voilà.
Si.
Ça va? Et donc, en fait, voilà, c'est un petit peu compliqué parce qu'il est en ce moment même en séance, une réunion sur l'Afghanistan, et puis ce soir, il présentera son film à Strasbourg. Donc, son nouveau film s'appelle Zéro Enquête sur le 11 septembre. C'est un politicien assez courageux, hein, parce qu'on n'en compte pas beaucoup de ceux qui s'élèvent et qui demandent à ce qu'il y ait une réouverture d'une enquête, hein, internationale, voire américaine, mais indépendante. Donc voilà, et puis on a beaucoup de choses à dire.
Il est de quel parti?
Alors lui, il fait partie de l'Alliance libérale-démocrate. Voilà.
D'accord.
Ouais.
Ouais. Faut dire qu'il y a 500 000 parties en Italie. On va peut-être passer un peu de musique et puis revenir dès qu'on aura monsieur Chiesa.
Si.
Chili in my arms.
I've only ever dreamt of this.
Après une redoutable philosophe, politicien affiné, affûté, avec donc ce monsieur Chiesa qu'on retrouve tout de suite, Émilie, tu nous le présentes ?
Oui, alors j'ai le plaisir d'accueillir Gioletto Chiesa, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Donc vous êtes un parlementaire italien, vous êtes en ce moment même à Strasbourg d'ailleurs ?
Oui, exactement.
Au Parlement ?
Oui.
Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?
Ah, je vais entraîner pour un voyage en Afghanistan qui va commencer le 25 d'avril. Donc, je reçois des informations pour la défense personnelle.
Et qu'est-ce que vous allez faire en Afghanistan ?
C'est une visite officielle du Parlement européen là-bas, de la commission, de la délégation pour l'Afghanistan. Je voudrais voir bien de proche ce qui se passe là-bas. Donc, comme les autres députés, on sera 5 ou 6, on va là-bas regarder la situation.
Alors, vous êtes un élu politique et ma première question sera celle-ci. Est-ce que vous êtes nombreux, comme vous, à prendre la parole sur la remise en question de la version officielle des événements du 11 septembre ?
Oui, nous sommes avec une bonne compagnie parce que selon les sondages, la majorité des Américains est d'accord avec nous que la version officielle n'est pas acceptable, donc n'est pas capable de surmonter plusieurs des questions. Donc, nous sommes en bonne compagnie. Donc, je pense que cette idée va se diffuser dans le monde. Je pense que c'est très bon pour tout le monde.
Alors, au niveau citoyen, d'accord, mais au niveau politique, est-ce que d'autres politiciens comme vous prennent la parole et puis dénoncent une certaine zone d'ombre, certains aspects du 11 septembre ?
Non, il y en a très peu. Je montre les films, j'ai fait le film Zéro, l'enquête sur le 11 septembre, je l'ai montré au Parlement, et seulement 6 députés, 8 en tous, ont regardé le film. Ils ne sont pas venus, et je comprends très bien pourquoi, parce que commencer à ouvrir les yeux sur cette question, très troublant, c'est-à-dire peut provoquer des embarrassements, parce que nous sommes en Afghanistan à combattre. Pourquoi, je ne sais pas. Et ils ne sont pas, ils ne connaissent pas même la raison. Nous sommes allés en guerre en Irak et nous ne connaissons pas la raison. Et nous continuons à faire la guerre contre quelque chose qui probablement n'est pas l'objectif, le juste objectif de notre bataille. Donc je pense que la plupart des députés n'aiment pas d'affronter cette question parce que c'est très dangereux pour leur politique, pour la carrière politique même.
Mais alors vous, pourquoi est-ce que vous prenez ce risque-là?
Non, je n'ai pas aucune préoccupation parce que surtout je suis journaliste, j'ai toujours dans ma vie travaillé pour informer les gens, donc je continue à le faire, la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis très, très préoccupé parce que nous sommes en guerre et nous ne connaissons pas les raisons de cette guerre et la version officielle qu'ils nous ont donnée de l'an septembre est complètement fausse. Et c'est très facile de la démontrer. Ce qui s'est passé exactement, je ne sais pas, mais je peux démontrer que l'administration américaine a menti plusieurs fois, dizaines de fois. Donc, alors elle doit expliquer pourquoi ils ont menti.
Mais Monsieur Chiesa, alors pourquoi tout le monde poursuit ces guerres infondées? On sait qu'en France, Nicolas Sarkozy a voulu mettre encore plus de contingents à disposition des forces présentes en Afghanistan. Pourquoi est-ce que, malgré les informations qu'on a maintenant, on continue d'appuyer ce genre de guerre?
Oui, parce qu'on n'a pas l'information. La majorité, l'écrasante majorité de la population n'a aucune information réelle sur ce qui se passe. Et donc, la question c'est, quelle information reçoivent la majorité de la population? On parle entre nous, nous sommes collègues, donc il faut regarder les choses comme il faut. Alors, comme journaliste, je peux dire qu'une analyse réelle sur l'11 septembre a été bloquée systématiquement. Les médias, pas seulement italiens, les médias mondiaux ont fait silence sur cette question. Et la question, c'est très simple, c'est élémentaire. Il faut commencer à analyser. Il y a beaucoup de documents sur Internet et partout le monde. Il faut ouvrir les yeux, regarder. Les journalistes ont cette devoir de le faire, donc pourquoi ils n'ont pas fait ça? C'est la question, parce que les médias sont aujourd'hui un peu très proches au pouvoir, ne sont pas le quatrième pouvoir, sont le pouvoir, et donc ils répètent les choses officielles qui dit le pouvoir.
Alors, je n'ai pas vu le film Zéro que vous allez présenter ce soir, donc Zéro enquête sur le 11 septembre, vous le présentez à Strasbourg, je vais donner quand même quelques informations, c'était à 18h et c'est au cinéma Odyssée, parce qu'on est écouté là-bas.
Oui.
Mais par contre, j'ai lu votre livre Guerre et mensonges, terrorisme d'État américain, et tout d'abord, ce qui m'étonne, c'est qu'en tant qu'élu politique et journaliste, vous dites clairement que ça n'a pas pu se passer comme on nous le fait croire.
Oui, exactement, je le dis parce que, je répète, c'est très simple de le démontrer, et je ne suis pas seul même. Dans le livre Zéro collectif que j'ai publié cette année, il y a 65 témoignages d'experts américains qui, comme moi, ne croient pas à la version officielle et avec plusieurs arguments. Donc, il faut lire les choses. Et la question, c'est que je suis en de... pas beaucoup de personnes. J'ai deux, trois amis, je peux dire comme ça. C'est les députés japonaises Fujita, c'est les ministres, le former ex-ministre allemand Andreas von Bülow, c'est le ministre de Blair Michael Mitchell, etc., etc. Nous sommes 4-5 qui disent ces choses-là, mais jusqu'à ce moment, nous avons été empêchés de le dire parce que il n'y a pas de place pour cette position dans la presse et dans la télévision officielle. Donc j'ai décidé que parce que c'est impossible de raconter avec les mots l'11 septembre, il faut le montrer. Alors tout le monde a vu avec ses yeux la vérité de l'11 septembre, c'est-à-dire l'11 septembre. Ce que milliards de personnes ont vu n'est pas la vérité, c'est une chose mystifiée. Donc il faut montrer avec les yeux ce qui s'est passé là-bas avec un peu des informations supplémentaires. Donc c'est très simple. Il faut regarder et lire, et après toutes les choses seront claires.
Très bien. Jolito Kessar, on reste ensemble encore pour plusieurs interventions. On va écouter un peu de musique. Et puis d'ailleurs, c'est exactement ce que vous dites à la première page de votre livre, donc « Guerre et mensonges, terrorisme d'État américain ». Nous vivons dans un système de communication, et non seulement d'information, qui ne rend absolument pas compte du monde dans lequel nous vivons, qui nous en offre même une image complètement faussée et nous empêche de voir ce qui se passe. On va prendre de la hauteur avec vous et voir un peu plus loin alors justement ce qu'il en est. À tout de suite.
Thank you.
eau de vin rouge, même s'il est encore un petit peu tôt pour l'apéro. UB40, on repart avec Monsieur Giulietto Chiesa et Émilie, auquel tout à l'heure tu disais, Monsieur Giulietto Chiesa, faites quand même attention à vous. Tu te présentais là, j'espère.
Non, c'est une manière de rire comme ça hors antenne sur les propos, mais écoute, toutes les personnes que j'ai rencontrées n'ont pas accepté finalement que je diffuse leurs propos, donc il y a quand même une énorme précaution par rapport à ce qu'on peut dire ou non sur l'11 septembre. Ensuite, bah voilà, c'est tout bête, mais je sais
mais qu'est-ce
que...
qu'on risquerait mais, écoute, problème, je ne comprends pas, je suis naïf.
Il y a des choses toutes bêtes, mais là je sais que... Bah, peut-être que vous pouvez nous en parler, Giulietto Chiesa, mais il me semble que justement l'Europe est en train de resserrer des lois sur tout ce qui concerne le terrorisme, qu'on nous met une certaine pression à nous citoyens. Hier, dans le journal d'hier, on entendait que la menace terroriste augmente en Suisse.
C'était le problème numéro 1 en Suisse, voilà. Quelque part.
C'est incroyable.
Au niveau de la sécurité, en tout cas pour l'année 2007.
Alors imagine que partout, là, on nous dise attention au terrorisme, et que d'un seul coup, il y a une voix qui dit oui, mais vous savez, le 11 septembre, ce n'était pas des terroristes. Je pense que ça peut être un petit peu dangereux pour la personne qui prend ce biais-là. Enfin,
mais dangereux, c'est-à-dire le danger viendrait de qui c'est qui, donc, qui est l'ennemi de la vérité
on
là-dedans.
Peut-être vous demander, Giulietto Chiesa, qui pourrait vous empêcher de parler?
Non, pour le moment, je n'ai pas. J'ai eu seulement quelques coups de fil un peu menaçants, mais rien de sérieux. N'est pas pour moi la question. La question, c'est que ceux qui ont organisé l'11 septembre avaient dans leur tête l'idée de changer l'histoire du monde. Il faut se demander pourquoi. Et la réponse, on la trouve aujourd'hui dans les journaux. Nous sommes dans une crise dramatique, terrible, qui est en même temps énergétique, climatique, financière. C'est-à-dire, nous sommes à la fin d'une phase de la vie de l'humanité. Donc, il faut comprendre ça. Nous sommes dans un tournant de l'histoire. Et donc, pour changer l'histoire, ceux qui ont l'information, ceux qui avaient l'information même l'an septembre, avaient le besoin de changer l'histoire, parce qu'ils ont le pouvoir et ils ne veulent pas le perdre. Et donc, ils sont capables de faire toutes les choses qui même l'homme de la rue n'est pas capable d'imaginer, parce que personne n'a tué personne, et la plupart, l'écrasante majorité des gens sont normales, donc ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a des personnes qui travaillent tous les jours pour changer leur vie, pour changer le monde, pour gagner le pouvoir et pour le conserver.
Alors, juste pour être un tout petit peu concret, on pourrait dire comme ça, je vais schématiser très grossièrement, hein, monsieur Chiesa, mais disons que les États-Unis étaient une puissance dominante et fonctionnait à merveille, sauf que le moteur s'est enrayé, les États-Unis entraient en récession, on a eu le scandale d'Enron, on a eu beaucoup d'autres affaires comme ça, et que du coup, finalement, le 11 septembre, je m'appuie sur votre livre, hein, serait venu faire diversion. Et non seulement faire diversion, mais réactiver aussi le moteur qui était en panne pour se lancer dans d'autres guerres, dans d'autres conflits, qui une fois de plus alimenterait l'énorme machine et puis lui donnerait toujours les moyens d'assouvir son besoin de consommation et d'hyperpuissance.
Alors oui, vous avez touché le point. La question c'est claire. Si vous regardez, pour moi au moins, si vous regardez le système d'armement que les Américains sont en train d'améliorer et de produire, ce sont tous des moyens d'une guerre stratégique atomique mondiale. Donc n'est pas la guerre contre le terrorisme musulman qu'il prépare ou pour laquelle il se défend, il pense de se défendre. Il prépare une grande stratégique dans laquelle l'espace, par exemple, joue le rôle central. L'espace et les nouveaux armements laser et atomiques. Donc, il ne se prépare pas à la guerre contre le terrorisme, il se prépare à la guerre avec une grande puissance contraire, ou qu'il pense serait contraire.
Oui,
quelle est cette puissance? C'est très, très simple, c'est la Chine. Il se prépare à faire face à une puissance énorme qu'ils ne sont plus capables de contrôler.
Alors là, justement, je vous interromps une seconde, mais c'est incroyable. En fait, à la fin de l'année 2002, le Pentagone a diffusé un document portant une signature très importante, celle de Donald Rumsfeld. Et en 2002, Rumsfeld, hein, qui n'était pas encore ministre de la Défense, mais voilà, estimait qu'en 2007, hein, le Pentagone estimait qu'en 2017, pardon, le principal ennemi des États-Unis serait alors la Chine. C'est-à-dire qu'en 2002, ils ont ratifié comme ça l'idée qu'il faudrait s'attaquer à la Chine en 2017. C'était ça l'idée.
Exactement, c'était, mais ce document a été comme la première fois que cette idée a commencé, a été avant le, de 2011, était 1999 dans le document de Project for the New American Century, le projet pour le nouvel siècle américain. Donc ce sont les conservateurs qui ont élaboré cette théorie avant même l'11 septembre. Donc,
dans l'idée que la Chine allait devenir très puissante et prendre une part plus importante sur le monde et que les États-Unis allaient perdre un petit peu de leur terrain. Donc c'est ça, c'est l'idée de toujours garder leur hyperpuissance.
Oui, exactement. Donc je dis comme ça, du point de vue de l'information. Ceux qui ont l'information ont la possibilité de regarder dans le futur. Un petit peu, mais ils peuvent le faire. C'est comme les habitants d'une haute tour, très haute, qui donne la possibilité à cette personne d'avoir une vision du futur. Alors je pense qu'ils avaient déjà plusieurs informations sur notre futur parce qu'ils ont le pouvoir de le faire. Et alors, regardez la situation aujourd'hui. Ils sont passés 7 ans après l'an septembre et nous sommes déjà dans la crise la plus terrible et la plus incontrôlable, on peut dire comme ça. Alors, dans 5 ans, si la Chine continue à se développer à cette rapidité, c'est-à-dire 11% de produit national brut, cela signifie que dans 5 années, nous aurions une Chine et demi, c'est-à-dire une géant qui va consommer seulement, la Chine, une moitié de l'énergie du monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrive très vite à une situation dans laquelle il faudra décider qui aura l'énergie et qui n'aura pas l'énergie. Et personne ne peut pas dicter notre volonté, c'est-à-dire la volonté des États-Unis, aux Chinoises, par exemple, aux Indiennes. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va se préparer à la guerre contre eux ou on va choisir, c'est-à-dire l'alternative, la seule alternative pour la survivance mondiale, c'est-à-dire de se mettre autour d'une table, discuter avec tout le reste du monde, changer notre vie. Oui, il faut changer notre vie, il faut renoncer à quelque chose, se mettre d'accord, diviser les ressources. C'est une perspective réelle. L'autre perspective, c'est la guerre, et donc nous sommes dans les mains de personnes qui pensent à la guerre. C'est pour ça que je suis préoccupé et que j'écris ce que j'écris, parce que je suis très préoccupé que le niveau intellectuel de cette personnalité c'est dangereusement partiel, incapable de comprendre le monde d'aujourd'hui. Donc ils sont périlleux, ils sont périlleux pour tout le monde. Ouais. Oui.
En tout cas, merci beaucoup. On reste avec vous. On revient dans quelques instants. Moi, je voudrais juste donc rappeler l'idée. Ce serait ça. C'est une guerre pour l'énergie, une guerre pour pouvoir assurer toujours son hyper qualité de vie dans l'hyper consommation. Et donc les États-Unis viseraient la Chine et finalement, eh bien l'Irak, l'Afghanistan et puis d'autres pays peut-être encore seraient des ennemis intermédiaire avant d'encercler cette zone-là. Merci et on revient dans quelques instants. Je voulais juste dire que dans son livre, il dit moi je peux pas vous vendre de l'espoir. Hein. L'espoir, nous n'avons qu'un seul, c'est celui de nous organiser. On revient avec vous.
D'accord, on va un peu décompresser parce qu'on a les neurones qui chauffent. Là. Un patronyme de circonstance, Super Family. Il y a l'oncle Sam, Tata Chine, Mère Europe, Papa Africa et tout ce petit monde va se faire une grosse fête bientôt. Peut-être la dernière d'ailleurs.
Alors Papa Africa, complètement oublié en fait. C'est très intéressant de découvrir le
pillé
livre.
Pillé quand même par la Chine aussi, il y a quand même des relations.
Pillé, mais finalement les pauvres on s'en fout et tous les continents pauvres on s'en fout. Ce qui compte là c'est vraiment l'hyperpuissance des riches. Alors quand on parle des riches, on parle pas de toi qui gagnerais plus que moi ou autre chose. Tu vois, on parle vraiment de ceux qui dominent le monde. D'ailleurs, Giulietto Chiesa, vous êtes encore avec nous?
Oui.
Super. Vous le dites clairement, c'est la guerre des riches contre tous les autres.
Oui, c'est une des éléments de la crise. Alors, on a dit pendant 20 années que la globalisation a été le moyen pour soulever tout le monde de la pauvreté. N'est pas vrai, c'est exactement le contraire. La différence entre les riches et les pauvres s'est augmentée, dilatée incroyablement. On a des continents entiers qui vivent à la limite de l'existence et on est dans une situation dans laquelle dans une dizaine d'années, une autre milliard de personnes n'aura pas de l'eau pour boire, de l'eau potable pour boire. Donc, et on est dans une situation dans laquelle si on continue à consommer ce qu'on consomme, on aura un échauffement du monde qui va faire disparaître, par exemple, c'est seulement un petit exemple, c'est-à-dire le Bangladesh tout entier, c'est-à-dire sont 400 millions de personnes qui vont se déplacer seulement là-bas, et l'Afrique encore plus, c'est 1 milliard de personnes. Donc, je pose la question. On peut penser de vivre en paix dans cette situation? Qui est le fou qui pense qu'on peut vivre dans une situation de ce type-là en paix, avec la paix? Donc, on est en train d'aller en guerre. Alors, il faut que milliards de personnes, alors je voudrais bien que 500 millions d'Européens comprennent que nous sommes à la limite de la guerre.
Et justement, Monsieur Chiesa, excusez-moi de vous interrompre, mais comment est-ce qu'on fait, nous, Européens, justement, en sachant qu'on fait partie, entre guillemets, du camp des riches, même si on n'est pas d'accord avec la politique menée par ceux qui justement, sont tout en haut?
Oui, j'ai dit comme ça, que, par exemple, l'Europe est un sujet puissant de la politique mondiale. Nous n'avons pas des armements stratégiques, excepté la France, mais l'Europe, comme telle, n'a pas un armement stratégique, donc nous sommes désarmés. Bien, cela nous donne une grande force. Nous sommes très puissants du point de vue économique, technologique, financière, commercial. On peut dire, par exemple, aux États-Unis, messieurs, chers amis alliés de l'OTAN, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Vous avez une ligne qui va contre tout le reste du monde. Nous ne sommes pas d'accord avec vous. Si vous voulez, c'est un programme politique immédiat.
Oui, mais ce que disait Duja, M. Chiesin, il demandait à titre individuel. Parce que vous voyez bien, Sarkozy était élu en France, Berlusconi est de retour en Italie. Ils sont tous très proches de M. Oui. Bush et de son gouvernement. Donc, on se sent un peu démunis si on voulait s'organiser.
Parce qu'on fait quand même partie d'un camp, entre guillemets, mais même si on n'est pas d'accord avec ce que font les gens qui dirigent ce camp, bah, quel sera en fait notre comportement? Qu'est-ce que nous, on peut faire en tant qu'individu, en tant que citoyen maintenant?
Oui, je ne dis pas qu'il est facile, je dis qu'il est très très difficile, mais par exemple, je m'appelle à la force de la presse et de l'information. Il faut comprendre que cet changement n'est pas un changement qui peut être dicté par quelques dirigeants politiques. Je pense que la mutation dramatique qui va se dérouler dans les prochaines années demande la participation de millions de personnes. Il faut changer notre vie, il faut commencer une grande discussion culturelle, dirais-je, un grand changement de système des médias et des communications. C'est-à-dire, il faut avoir la participation de millions de personnes qui doivent savoir ce qui se passe exactement. Alors, le mouvement sera produit dans ce grand changement d'opinion, je dirais, qui doit être organisé dans quelque certaine façon. Et la seule chose que je peux imaginer, c'est que la presse, la télévision, les médias commencent à aider la population à changer. Je comprends que quelqu'un peut dire, mais vous avez une idée pédagogique de l'information. Oui, exactement. Je pense que on a été déséduqués par l'information pendant 40 ans, et maintenant il touche à l'information de rééduquer la population.
Monsieur Chiesa, ça va changer quoi que les gens changent d'opinion concrètement sur le terrain politique décisionnel? Si la plupart des gens sont contre les décisions menées par les États-Unis, qu'est-ce qu'on peut faire après? Il va falloir se battre, il y aura une guerre Europe-États-Unis?
Non, une guerre Europe-États-Unis, je ne le pense pas. Je pense que certainement il va être une grande tension. Donc, le changement est déjà dans les faits. Alors, nous avons été alliés et nous avons été d'accord avec les États-Unis pendant 30 années. Et maintenant, nous sommes dans une situation dans laquelle on ne peut pas être d'accord avec les États-Unis parce que ça commence à devenir dangereux pour
nous. Mais eux s'en fichent, M. Chiesa. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire changer, en fait, la politique américaine?
Non, je ne pense pas qu'ils peuvent s'en ficher parce que, par exemple, ils n'ont pas une solution pour la Chine, ils n'ont pas une solution pour la Russie. Même la Russie retour très fort. Et l'Europe, je répète, peut avoir des chances d'influencer la situation internationale avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Inde, avec la Russie, etc. Donc, je ne suis pas assez désespéré parce que c'est vrai ce que vous dites, c'est très difficile. Mais dans le même temps, je pense que la crise qui va se dérouler va nous aider parce que plusieurs des choses que maintenant moi et vous on peut comprendre ne sont pas encore comprises par la majorité. Mais dans 2-3 ans, je pense que les choses vont changer. Plusieurs des choses qui aujourd'hui ne sont pas visibles seront visibles. Donc plusieurs des choses sont dynamiques. Il faut regarder la situation dans une façon dynamique.
Pour conclure, peut-être que l'on pourrait dire à M. Chiesa que finalement c'est à chacun de nous d'être vigilant, de solliciter nos élus, ceux qui sont à la tête de notre conseil de quartier, de notre commune et même et un peu plus loin aussi, pour s'assurer qu'ils nous comprennent bien, qu'on se comprend bien, qu'ils n'iront pas signer quelconque accord ou qu'ils n'iront pas s'engager dans cette immense guerre qui est déjà active. On le voit avec la spéculation sur les matières premières alimentaires.
Oui,
c'est déjà là.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez dit les choses que je pense exactement.
Donc voilà, donc c'est à nous de trouver les moyens de s'organiser.
Ouais,
et puis
avec 30-40% de participation démocratique en Suisse, on voit vraiment que ça va bouger au niveau des élus.
Eh bien, il faut se nourrir
ouais,
le cerveau.
Encore du boulot, hein.
Monsieur Chiesa, je rappelle que vous projetez donc votre film ce soir à Strasbourg. C'est à 18h, c'est au cinéma Odyssée. On vous remercie beaucoup. Et puis, bon séjour en Afghanistan. On espère avoir de vos nouvelles pour nous raconter comment ça se passe.
Bien.
Merci beaucoup à vous.
Merci au revoir.
Beaucoup, c'était passionnant.
Au revoir.
Merci Émilie.
Ah yes.
Quel boulot cette semaine.
N'est-ce pas.
T'as pas la tête qui chauffe là.
Non, mais demain, non. J'ai juste un peu peur, tu vois.
Ok, bon, on se retrouve demain alors.
Oui, à demain.
C'est parti. Pour les Brothers Tunes. Ciao, ciao.
Where can I
voilà, et après tout ça, maintenant, on serait censé passer des annonces pour trouver du boulot. Des fois, le sens de la vie est quand même assez particulier, mais on va quand même le faire. 0840 003 003, merci de laisser la ligne libre pour ceux qui veulent passer leur annonce concernant le rendez-vous. Merci, place aux infos.
Avenue Jeanne Lamotte, 11h,
Libreville, 10h.